Marie-Christine Lanier, art et affinité. Écoute ça, petite fille. Le monde où vivait Velázquez était triste.
Un roi dégénéré, des enfants malades, des idiots, des nains, des infirmes. Quelques pitres monstrueux vêtus en prince, qui avaient pour fonction de rire d'eux-mêmes et d'en faire rire des êtres hors la loi vivante. Étreint par l'étiquette, le complot, le mensonge, lié par la confession et le remords. Aux portes, l'auto-da-fé, le silence. Écoute ça, petite fille. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velázquez est le peintre des soirs, de l'étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. Comme il ne sortait guère aux heures de la journée, où l'air est brûlant, où le soleil est un tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. C'est beau ça, hein, petite fille?
Pierrot le Fou. Un film de Jean-Luc Godard, 1965. Dans la scène qui ouvre le film, Godard fait lire à Jean-Paul Belmondo, fumant une cigarette dans sa baignoire, un extrait du texte que l'historien d'art Élie Faure consacre à Velázquez, l'un des maîtres du siècle d'or espagnol. El siglo de oro, 16e, 17e siècle. L'or, l'Espagne, le Nouveau Monde, de la musique espagnole qui aurait voyagé jusqu'au Mexique. Écoutons la version instrumentale d'un motet du compositeur Alonso Lobo, Cum Audisset Johannes, que joue le Boston Baroque de Joel Cohen. Velázquez et puis Élie Faure, Godard, c'est la force des grands artistes de susciter des réponses d'une haute qualité. Pierrot le Fou commence par cette scène iconique, Belmondo lisant le texte d'un historien de l'art sur le siècle d'or dans sa baignoire. Pourquoi ? Pour montrer peut-être que les œuvres des artistes appartiennent à tout le monde. et que ce qui compte, c'est de garder son esprit critique dans l'expérience que constitue la visite d'une exposition. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec le texte d'Elie Faure, mais je trouve ce qu'il écrit très beau. Même chose pour la musique. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient pas à un sérail. Alors pas d'apartheid. Le musée Jacquemart-André propose au grand public une découverte de la peinture espagnole et hispanique des collections de la Hispanic Society de New York. Elle est intitulée Splendeur du baroque, de Greco à Velázquez jusqu'au 2 août 2026. La réservation est vivement conseillée. Une exposition qui présente une richesse culturelle exceptionnelle avec une collection qu'on peut certes aller voir à New York si on y va, mais le musée de la Hispanic est tout au nord de Manhattan, au-delà de Harlem, et on s'y rend moins facilement qu'à la Frick Collection ou bien au Metropolitan. Là, c'est la Hispanic Society qui est venue jusqu'à Paris. Aujourd'hui, premier volet d'un cycle de 2 émissions, et je voudrais commencer par revenir sur 2 termes. Le mot baroque, dans le titre de Jacquemart-André, pose problème, vraiment. Originellement, le terme baroque est péjoratif, il signifie bizarre, biscornu, tarabiscoté. Il vient du portugais barroco et désigne en joaillerie une perle irrégulière, c'est-à-dire une perle qui n'est pas parfaitement ronde. Or, ce dont nous allons parler dans ces 2 émissions n'a rien de bizarre, de biscornu ou de tarabiscoté. Et on considère de plus en plus aujourd'hui que ce terme baroque désigne seulement une période historique, des limites temporelles, c'est-à-dire le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe. En gros, baroque, cela signifie de 1600 jusqu'en 1750, y compris dans le domaine musical. Alors, posons cela. Seconde expression à préciser, siècle d'or. Siglo de oro en Espagne. Cela correspond à une période d'autonomie culturelle et artistique de l'Espagne. C'est l'éclosion d'une culture proprement hispanique, grâce à la présence, oh non pas d'économistes, mais grâce à la présence d'écrivains, artistes, compositeurs, architectes de premier plan. Le siècle d'or espagnol correspond au XVIe et XVIIe siècle, avec 2 dates clés. 1492, la découverte, vous le savez, de l'Amérique par Christophe Colomb. Et 1557, Philippe II, le fils de Charles Quint, le monarque le plus puissant d'Europe, lance le chantier du palais-monastère de l'Escorial, qui attire évidemment des artistes venus de toute l'Europe pour œuvrer à sa construction et à sa décoration. Le siècle d'or espagnol s'est achevé à la fin du règne des Habsbourg d'Espagne en 1700 avec la mort de Charles II de Habsbourg. Donc, cette exposition, le siècle d'or espagnol, 16e-17e, englobe le baroque. Dernier point sur Siglo de Oro. L'Espagne contrôle une partie du monde. Elle est à la tête d'un empire qui s'étend à Naples, à Milan en Italie, aux Pays-Bas dans le nord de l'Europe et aux possessions d'Amérique. Et ses richesses, c'est vrai, sont décuplées par la colonisation de l'Amérique latine. C'est le temps d'une dilatation de l'espace géographique et d'un rayonnement absolument exceptionnel, hors du commun. Et ces possessions entraînent un afflux de ressources et aussi de talents. Les deux vont toujours de pair. Évidemment, le siècle d'or ne le fut pas pour tout le monde. Pour accompagner cette première émission, j'ai choisi le compositeur Alonso Lobo. C'est un des grands polyphonistes espagnols de la fin du XVIe siècle. Il est peu connu en France. Il meurt en 1617, ce qui est en fait un contemporain absolument exact de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, également du peintre Greco, qui est présent dans la première partie de ce cycle de deux émissions. Alonso Lobo fut maître de chapelle de la cathédrale de Tolède, la ville de Greco, puis de la cathédrale de Séville. Et, raison pour laquelle je l'ai choisi, sa musique a été jusqu'en Amérique. Alors, je remercie vivement Jean-Édouard, et puis le musicien Stéphane qui réalise cette émission et qui vous dit bonjour de l'autre côté d'une grande vitre. Le portrait, la peinture religieuse et la nature morte sont les trois grands genres de la peinture du siècle d'or espagnol et la première salle de l'exposition a pour objectif de planter le décor, de donner à ressentir cette ambiance à la fois sobre et fastueuse, extrêmement majestueuse de la cour des Habsbourg. Elle s'ouvre avec un portrait d'apparat que je vous montre sur l'écran de rc.fr, un portrait de gentilhomme anonyme en armure, peint par un artiste nordique, le flamand Antonio Moro. Les Pays-Bas, je le rappelle, étaient sous domination espagnole. Et comme l'Espagne était hégémonique, il ne faut pas s'étonner que l'art espagnol se nourrisse de ses influences extérieures. D'autant plus que son unité politique, économique et confessionnelle est assez récente. 1492, vous le savez, c'est l'année même où Christophe Colomb met le pied aux Amériques, mais c'est aussi l'unité territoriale de l'Espagne qui s'achève avec l'union d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, les rois très catholiques. Et je m'empresse de l'ajouter, ce n'est pas une Espagne de la tolérance religieuse. Donc, regardons ce tableau. Noir, rouge et vert, c'est un gentilhomme cuirassé qui se présente à vous. Les artistes du nord de l'Europe, les Flamands, étaient très recherchés car on savait qu'ils étaient d'excellents portraitistes et par ailleurs, ils sont excellents aussi dans le rendu des textures des vêtements, dans celui de l'éclat de l'orfèvrerie et ici, la brillance d'une armure noire, hein, ouvragée d'or, hein, qui fait ressortir, quand vous examinez bien ce tableau, une armure de fer qui fait ressortir le rendu extrêmement aiguisé de la peau du visage et des mains. Donc ce qui frappe tout de suite, c'est le contraste métal et peau humaine. L'écharpe rouge tranche sur le noir de l'armure et c'est une armure qui est zébrée de taches blanches, totalement géométrique, comme un damnier, fièrement portée par un homme de cour, un courtisan. Un courtisan, c'est-à-dire un homme de cour. Sur fond de draperie verte, oh mon Dieu, mais pourquoi? Mais parce que le rouge, c'est la couleur complémentaire du vert. On n'a pas attendu notre époque pour le savoir. Un portrait de son épouse, qui est elle aussi vêtue de noir, insérée dans un cadre noir, figure à l'arrière-plan. Donc cela confère un peu d'intimité tout de même à cette scène très froide. Réalisme du visage donc et élégance, distinction presque hautaine, c'est cette contradiction qui fait la, la force magistrale du portrait d'Antonio Moro. Antonio Moro a fixé un type de portrait aristocratique, austère, très austère et solennel, adopté par l'Espagne du siècle d'or et qui va donner naissance à ce que l'on appelle le caballero. Déjà en 1528, l'Italien Baldassare Castiglione décrivait ainsi son courtisan dans le livre du courtisan qui fut le livre de chevet de Charles Quint, celui de François Ier aussi. Je veux dire, il l'avait tout le temps à portée de main. Et je cite Castiglione, il me plaît que toujours les habits du courtisan tendent un peu plus vers le grave et le sérieux que vers le vain. Vain. C'est pourquoi il me semble que la couleur noire a meilleure grâce dans les vêtements que tout autre. Et dans cette salle qui vous accueille, nous avons juste devant nous le rideau final de cette période du siècle d'or avec un tableau absolument spectaculaire, un tableau magnifique qui représente ce faste et en même temps cette sobriété et même un côté un peu macabre de vanité, vanité au sens d'avertissement. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, vanité des vanités, tout est vanité, n'oublie pas que tu vas mourir, hein, dit le texte de l'Ancien Testament. Donc ce côté un peu grave de cette époque du siècle d'or espagnol, avec la sublime représentation en très grand format de la chapelle ardente de la reine Marie-Louise d'Orléans, première épouse de Charles II, le dernier des Habsbourg d'Espagne. Alors, elle était une princesse de France, Marie-Louise d'Orléans, la nièce de Louis XIV. Et ses funérailles furent un chef-d'œuvre de ce que l'on peut appeler le baroque, historique baroque, parce que nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes en 1690, vous avez le tableau sur l'écran de rc.fr. On est au théâtre, et je le reconnais, le mot baroque au XVIIe siècle a partie liée, que ce soit en musique ou dans les arts plastiques, a toujours partie liée avec le théâtre, le spectacle, la mise en scène, est souvent quelque chose d'excessif. Alors, observons le tableau, il s'agit de l'exposition du corps de la reine, ce n'est pas rien. Elle était morte prématurément, très jeune. Elle est allongée sur un somptueux catafalque rouge, surmonté d'un dais rouge. Et sur un tapis, vous l'aurez deviné, rouge. Elle est vue de face, donc en raccourci, absolument au centre de la composition. Là, on est vraiment au théâtre, hein. Elle est vêtue selon son vœu de l'habit noir et blanc des Carmélites. Donc la reine défunte, suivez-moi bien, est dans un dépouillement très austère, mais cette austérité contraste avec la magnificence du décor du palais de l'Alcazar de Madrid, de part et d'autre de l'estrade funéraire. On a une estrade, je vous l'ai dit, on est au théâtre, 12 hauts cierges, alors 6 de chaque côté, 12 hauts cierges qui fument. Et ça fait très spectacle pyrotechnique. Et sur le devant de la scène, des chérubins pleurent. Alors ça, c'est pour le côté émotionnel. Enfin, au premier plan, un long phylactère portant ces mots en latin. Je cite, je vous traduis, les lys, allusion aux lys de France. Les lys ne fleurissent pas éternellement. Elle est morte, donc les lys ne fleurissent pas éternellement. C'est de la très haute diplomatie. Et cela rappelle l'inéluctabilité de la mort. Je vous parlais du côté vanité de cette peinture. Enfin, l'ensemble de la scène baigne dans un clair-obscur dramatique. Toutefois, problème. Alors, problème. Il est question de la continuité dynastique dans cette mise en scène parce que j'observe que les insignes royaux, la couronne, le sceptre sont passés de main en main par des officiers vêtus de noir. Oh, ça fait très... C'est très extraordinaire. Or, le couple n'eut pas d'enfant, donc Charles II devait se remarier. Il était complètement incapable d'avoir un enfant. C'était le résultat des mariages consanguins successifs chez les Habsbourg d'Espagne. Alors, suite à la mort de Charles II, donc il meurt en 1700, la couronne passera aux Bourbons. Pour une histoire d'alliance, Louis XIV revendiquera la couronne d'Espagne pour son petit-fils et on tournera la page de cette... comment dirais-je, cette magnifique austérité, c'est un pléonasme, je sais, habsbourgeoise, pour entrer dans une autre phase, toute de frivolité, de dentelle, tout à la française, ce qui ferait l'objet d'une autre exposition. Alonso Lobo. Avec le compositeur Alonso Lobo, nous sommes, je vous emmène, en Andalousie. Alors, quelques données biographiques sur lui. Il est né en 1555 à Osuna, une bourgade près de Séville, et il meurt en 1617 à Séville, où se concentrent les artistes et les musiciens. Au XVIe siècle, Séville a alors une place stratégique dans le monde grâce au dynamisme de son port. Séville est reliée à la mer par le fleuve Guadalquivir. Le port est relié aux comptoirs commerciaux anversois, napolitains, génois et surtout au Nouveau Monde. Séville, c'est une plaque tournante, un milieu cosmopolite. Je vous l'ai dit, si vous voulez de la création, il faut de l'argent. Et la cathédrale est l'un des hauts lieux, en plus du catholicisme. Un autre nom vous est sans doute plus familier que celui d'Alonso Lobo, Francisco Guerrero. C'est un Sévillan, lui aussi. Il fut le maître et le prédécesseur à la cathédrale de Séville d'Alonso Lobo. Il y fut maître de chapelle. Guerrero, c'est un des grands noms de la polyphonie espagnole du XVIe siècle, avec un autre nom, Tomás Luis de Victoria, mais qui lui travaille à Rome. Je vous propose d'écouter un extrait de l'un des chefs-d'œuvre reconnus par les musicologues d'Alonso Lobo. C'est un hymne de deuil, un motet à six voix, Versa est in luctum, sur ces très très belles paroles du livre de Job 30-28. Versa est in luctum citara mea, ma harpe s'est transformée en deuil. Et organum meum in vocem flensium, ma flûte à la voix des pleureuses, parsemi domine nihil enim sunt dies mei, épargnez-moi Seigneur, car mes jours ne sont rien. Ce sont des paroles qui expriment toute la détresse de Job. Alors cette pièce fut composée à l'occasion des funérailles de Philippe II d'Espagne. J'ai choisi pour vous, une interprétation anglaise, celle de l'ensemble Stile Antico pour Harmonia Mundi en 2014, une optique diaphane, donc, avec un ensemble anglais, le tissu vocal qui est distillé par les sopranes ténors et basses, est une méditation qui berce la douleur. L'imploration. Vous allez l'entendre, l'imploration est très retenue. Ça pourrait être joué très différemment. L'imploration y est très retenue. L'approche est austère mais typique et on a l'impression d'une profonde respiration. Cela est dû, me semble-t-il, à la façon dont les lignes musicales s'articulent vraiment très finement et surtout à la fusion harmonieuse des voix si pures. C'est toujours le propre des ensembles anglais. Ce sont des voix très pures et agiles des femmes avec les voix masculines. Et tout cela donne à ce contrepoint à six voix, finalement, une sorte de sérénité lumineuse. Le grand art de la polyphonie espagnole, trop peu diffusé en France et sur nos antennes, Je dis cela au musicien Stéphane qui réalise cette émission.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Ce siècle d'or espagnol, s'il culmine à son apogée avec ce qu'on appelle le baroque, est vraiment né des derniers feux de la Renaissance. Dans une seconde salle figurent les deux grands protagonistes de la peinture espagnole de la fin de la Renaissance, Greco et Luis de Morales. Commençons par Luis de Morales avec un Ecce Homo vers 1570. C'est l'ostentation du Christ que représente Morales dans un tableau de dévotion privée. Un contraste total avec le faste de la chapelle ardente de cette princesse française que nous venons d'observer. Dans les évangiles, le gouverneur romain Ponce Pilate présente au peuple le Christ supplicié en déclarant « Voici l'homme, ecce homo » en latin. Et conformément à la tradition, le Christ apparaît ici après la flagellation et le couronnement d'épines, il tient un sceptre de roseau à côté d'un homme qui a l'air très méchant, richement vêtu, qui le désigne en nous fixant du regard. Le cadrage est très resserré, la composition sur fond noir est comme scindée en deux parties et le but de ce tableau, c'est de vous donner l'illusion d'un face-à-face avec le Christ. On est dans le contexte de la contre-réforme. L'art et la carrière de Morales se développent de façon tout à fait synchrone avec les écrits d'une sainte que vous connaissez, Sainte Thérèse d'Avila, une femme hors norme. Elle qui proposait à ses carmélites des méditations sur la passion du Christ. Je vous lis un extrait du chapitre 28 dans son chemin de perfection. Êtes-vous dans le chagrin ou la tristesse? Voyez comment au milieu de toutes ces angoisses, il est persécuté par les uns, couvert de crachats par les autres, renié, délaissé par ses amis, sans que personne prenne sa défense, transi de froid et tellement isolé. Alors il tournera vers vous ses yeux si beaux et si compatissants, tout remplis de larmes. Il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres, uniquement parce que vous allez chercher de la consolation près de lui, et que vous tournerez la tête vers lui pour le regarder. Sainte Thérèse d'Avila. Luis de Morales, surnommé El Divino, importe en plus dans la peinture espagnole le sfumato de Léonard de Vinci, et c'est là que rentrent en scène les chercheurs. D'après eux, Morales ne connaît pas directement Léonard, mais il a pu être en contact avec des œuvres faites par les suiveurs de Léonard. On reconnaît dans ce tableau cette façon d'atténuer, d'estomper les contours et cette technique si particulière au grand maître italien. Et on la reconnaît là. Il y a toutefois, et c'est ça qui fait que vous allez vous rendre à Jacquemart André, car j'y ai fait cette expérience pour la première fois. Cela ne m'était jamais arrivé. Il y a toutefois une différence majeure. Léonard fait beaucoup de peintures religieuses, mais la peinture religieuse de Léonard n'est pas particulièrement dévotionnelle. En d'autres termes, elle ne donne pas envie de prier. Je pèse chacun de mes mots. Ce qui fait la spécificité de Luis de Morales, vous en verrez deux tableaux, dont cet Ecce Homo, c'est qu'il fait une peinture extrêmement dévotionnelle et même mystique, qui est là pour encourager la prière. Et on peut qualifier cet Ecce Homo de peinture mystique, contemplative, très espagnol. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, il y a du pathos. C'est une peinture qui recherche l'émotion de celui qui regarde. Et c'est là où je voulais en venir, c'est là où réside ma surprise et mon admiration pour cette présentation dans cette salle, ce que Gréco ne fera pas. Je vous montre sur l'écran de RC.fr un tableau de Gréco qui est une Pietà vers 1576. Et je comprends que Luis de Morales est un artiste qui est représenté en contrepoint par rapport à ce formidable protagoniste de la peinture de la fin de la Renaissance en Espagne qu'est le Gréco. Parce que souvent, et on se trompe, c'est manifeste ici, souvent, on a voulu faire du Gréco un peintre mystique. Gréco n'est pas un peintre mystique, mais un peintre humaniste, et ce n'est pas la même chose. Cela n'empêche pas qu'il soit un peintre très spirituel. Et il fait de la peinture religieuse absolument sublime, mais le grand mérite de cette confrontation, c'est qu'on voit qu'entre les deux, l'intention est vraiment radicalement différente. Avec Morales, on est dans un rapport, d'intimité, dans la prière, dans la méditation, on rentre en soi-même. Avec Gréco, on est dans une ambiance beaucoup plus déclamatoire, plus éloquente, oserais-je dire, plus évangélisatrice, d'une certaine manière. Alors, Gréco a une trajectoire tout à fait singulière. Je vous en dis quelques mots. Il naît en Crète, une île grecque sous influence vénitienne, en 1541. Et il est d'abord un peintre d'icônes. Il décide d'aller à Venise. Il se forme à la manière de peindre de Titien, donc à l'huile sur toile. Et ce qu'il apprend du Titien, c'est la liberté de la touche et son sens des couleurs. Malheureusement pour lui, Venise est déjà une ville surpeuplée d'artistes et Gréco n'y a absolument aucune place. Il décide alors de partir pour Rome, la capitale internationale des arts à cette époque-là. Au départ, il est protégé par la famille Farnèse, qu'il accueille dans son palais, l'actuelle ambassade de France. Alors, les Farnèse viennent d'avoir un pape, Paul III. Mais Gréco peine à trouver des commandes à Rome, d'abord parce que tous ces chantiers qui ont lieu à Rome réclament des fresquistes. Or, Gréco ne maîtrise pas la technique de la fresque. Il vient à peine de maîtriser la technique de la peinture à l'huile sur toile à la vénitienne. Et puis, un jour, il est à Rome, dans le palais Farnèse, il prétend qu'il est capable de faire mieux que le jugement de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Grave erreur. Et il est expulsé du palais Farnèse, manu militari, puisque c'est un pape Farnèse qui avait inauguré la fresque de Michel-Ange. Imaginez, le jugement dernier. Donc Gréco se décide à partir pour l'Espagne. Le nouveau roi d'Espagne, Philippe II, lui a-t-on dit, est en train de construire un immense palais monastère, donc l'Escorial, et on dit qu'il est amateur de peinture vénitienne. Et Gréco arrive en Espagne en 1577. Je vous montre une Pietà qui est présente à Jacquemart-André. C'est un manifeste esthétique de Gréco. Le Christ mort repose sur les genoux de sa mère, son corps est soutenu par deux anges de part et d'autre, la masse pyramidale des quatre corps entrelacés est en position tout de même instable, presque sur la pointe des pieds, la ligne serpentine des corps, leur élongation accroît vraiment l'expressivité d'une scène qui relève de la descente de croix. Il y a trois croix noires qui se dressent sur fond de ciel tourmenté, de la descente de croix, de la déposition et de la mise au tombeau. Et puis il y a le corps arqué de l'ange de droite qui tente de compenser une descente absolument vertigineuse du paysage à l'arrière-plan. Mais enfin, ils sont tous sur la pointe des pieds. Greco est encore très italien dans cette Pietà et il veut ici, il tente ici de synthétiser, d'incarner la fusion de Titien et de Michel-Ange, c'est-à-dire les deux grands protagonistes de la Renaissance, les deux grandes tendances vénitiennes et toscano-romaines de l'art de la Renaissance en Italie. Donc cette Pietà est une démonstration et réclame votre présence. Il y a la liberté de la touche de Titien, vraiment très libre, son sens de la construction par la couleur. Et puis en même temps, on retrouve la ligne, l'élongation des formes et la musculature de Michel-Ange. À telle enseigne que le Christ de cette Pietà est une citation directe, ce sont les chercheurs qui sont à l'origine de cette découverte, bien sûr. C'est une citation d'une sculpture que je vous montre également sur l'écran de rc.fr, de la Pietà Bandini ou Pietà aux quatre figures, sculptée par Michel-Ange, qui se trouve actuellement conservée au Museo dell'Opera del Duomo à Florence. Greco avait dû la voir lorsqu'il est passé par Florence et il cite le corps inerte du Christ avec ses lignes obliques qui semblent glisser, il glisse vers le bas, les longs bras du Christ qui tombent en arc de cercle, le mouvement en zigzag des jambes. Et d'ailleurs, la Pietà Bandini a une jambe en moins, mais personne ne s'en rend compte. C'est ça qui est extraordinaire avec Michel-Ange. Si on ne le sait pas, quand on est devant la sculpture de Michel-Ange, on ne se rend même pas compte qu'il manque. C'est un accident ou une brisure volontaire de Michel-Ange. Il manque au Christ la jambe gauche. Donc un tableau de Greco qui nous captive au sens littéral du terme. Alors, il y a également la présence d'un dessin. C'est rarissime, il est montré au public pour la première fois à Jacquemart-André. C'est le seul dessin de cette exposition du Greco. Une première pensée pour un retable du grand hôtel de Santo Domingo el Antiguo à Tolède. Du Greco, je vous montre un Saint-Luc qui est présent à Jacquemart-André. On représente plutôt Luc en train de peindre le portrait de la Vierge, mais c'est également un évangéliste. Il tient ici un livre. Il n'est pas exclu que ce soit un livre enluminé, illustré par Luc lui-même. On reconnaît immédiatement le style de Greco, ses couleurs acides. Ici, le vert du vêtement, ses formes allongées, qu'on a souvent qualifiées de maniéristes, il n'aurait pas aimé qu'on le considère comme un peintre maniériste. Là encore, c'est un terme très problématique qui signifie un art très stylisé au XVIe siècle qui s'éloigne de la nature. Or, Greco était très intéressé par la question de l'imitation de la nature. Il a beaucoup observé les cieux d'orage, comme dans la Pietà. Je crois qu'il a essayé de rendre la nature dans tout ce qu'elle avait de mouvant, de vibrant, d'instable. Et sa peinture, c'est ce qui va fasciner au début du XXe siècle. Toute l'époque moderne, sa peinture est électrique. Elle ne laisse aucun répit aux formes, que ce soit par une touche enfiévrée ou par des accords chromatiques à la musicalité très heurtée. C'est comme des dissonances. Voilà pour Greco à Jacquemart-André. À l'époque où Gréco se trouvait à Tolède, Alonso Lobo fut maître de chapelle à la cathédrale de Tolède et ils se sont peut-être croisés en cette fin de XVIe siècle. Puis Alonso Lobo retourne à la cathédrale de Séville, grand foyer, autre grand foyer de la musique sacrée ibérique. Et il succède à Francisco Guerrero comme maître de chapelle, maestro de capilla, à son tour. En 1602, il publie un livre de messes et de motets dont vous allez entendre une des plus belles pièces, c'est un Ave Maria à 8 voix. Alors, 8, c'est 2 fois 4. 4, c'est 3 plus 1. Les 8 voix sont scindées en 2 chœurs qui se répondent. Un motif mélodique est d'abord introduit par une voix, puis il est repris successivement par les autres voix. Mais par ailleurs, les voix vont s'entrelacer d'un chœur à l'autre et c'est une texture polyphonique, un tissu sonore extraordinaire, car malgré ces intrications mathématiques très savantes, on peut en faire un schéma géométrique. Malgré ces intrications mathématiques très savantes, la musique sonne innocemment sereine, angélique, comme le texte l'exige. Et l'œuvre culmine dans un parfait amen. Il y a une beauté vraiment immanente à ce tissage. À ce canon, canon c'est un terme technique, on parle d'un canon, vous le savez, quand l'un commence une mélodie et l'autre la suivante, c'est comme dans Frère Jacques. Et à nouveau, j'ai choisi pour vous des interprètes anglais, l'ensemble The Sixteen, dirigé par Harry Christophers en 2015.
Thank you.
La collection de la Hispanic Society de New York ne couvre pas seulement l'Espagne, mais aussi le Portugal, l'Amérique latine, les Philippines. Et cela permet de montrer au public français un art auquel il n'est que trop rarement exposé, l'art des Amériques. Et c'est une découverte à travers plusieurs salles. Une salle montre des œuvres qui sont vraiment à la frontière entre la peinture et l'objet d'art. On aurait tort de croire que la peinture qui se développe en Amérique latine est une peinture dérivative, subordonnée à la peinture espagnole. En fait, c'est une école à part entière sur laquelle s'exerce l'influence de la peinture espagnole, bien sûr, mais aussi flamande, italienne, des traditions locales, latino-américaines et des éléments venus d'Asie, notamment l'usage de la nacre. Et c'est une surprise. Je ne m'y attendais pas. Selon les chercheurs, l'idée d'utiliser la nacre vient de l'importation de meubles japonais, donc d'Asie. Et la nacre va être utilisée par des artistes espagnols et des artistes créoles, donc des Espagnols nés en Amérique, qui se forment à ce nouvel art pour fabriquer des objets qui soient en mesure, suivez-moi bien, des objets qui soient en mesure de transmettre aux populations nouvellement colonisées le message du colonisateur. Un message, en l'occurrence, chrétien. Et pourquoi la nacre ? Il s'agit de trouver un langage visuel qui leur soit intelligible. D'où l'idée de créer des objets qui sont presque magiques, qui ont l'air magiques parce qu'ils jouent avec la lumière. C'est le principe de la mosaïque. Vous pourrez voir deux tableaux qui appartiennent à l'école péruvienne, l'école de Cusco, qui présente des cadres magnifiques incrustés de nacre. Et est présent également, vous l'avez sur l'écran de rc.fr, un tableau mexicain toujours utilisant de la nacre, mais de manière différente puisque la nacre est désormais intégrée à la composition. On appelle ces tableaux des enconchados, concha c'est la coquille en espagnol. Il s'agit des noces de Cana, donc le premier miracle du Christ avec la transformation de l'eau en vin. À la demande de Marie à son fils, tout est doré, orangé sur fond noir, les parois sont noires avec des miroirs à touche-touche, il y a des zones rouges, les tapis de table, le dé tendu, le tout avec une perspective tout de même très hasardeuse, mais ce n'est pas le propos. Donc la nacre, l'or aussi à l'intérieur de ces compositions et l'idée c'est me semble-t-il de faire sortir la lumière de la scène religieuse, de la scène sacrée pour affirmer le caractère sacré, divin de l'iconographie, en l'occurrence les noces de Cana. Donc on pourrait parler de métissage dans ce cas me semble-t-il et c'est vraiment très luxueux et rarissime. Les musicologues nous apprennent que les partitions du compositeur Alonso Lobo ont voyagé et se sont retrouvées dans le Nouveau Monde, notamment au Mexique, pendant plus de 2 siècles après la mort de Lobo. Et pour clore cette émission, je vous propose d'écouter quelques mesures de son credo romano, un modèle de clarté et de transparence bien différent de ses pièces à la polyphonie savante. Au revoir. Thank you.
venez d'entendre Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lagnier, émission préenregistrée le 25 avril 2026, diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 30 avril de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.